Alors aujourd'hui, nous finissons les Mégillotes. Rappelez-vous, ces cinq petits rouleaux, hein, c'est le terme Megillah en hébreu qui veut dire rouleau, ces cinq petits rouleaux qui sont regroupés en un corpus dans la Bible hébraïque et qui sont lus en différentes occasions tout au long de l'année. Aujourd'hui, nous faisons les deux derniers, c'est les Lamentations de Jérémie et le livre d'Esther. Et puis on fera le livre de Daniel aussi, bien sûr, comme ça, la semaine prochaine, ce sera notre dernière séance, on terminera avec Esdras, Néhémie, et puis on fera les chroniques rapidement. Le livre des Lamentations, il porte ce titre parce que c'est le premier mot du premier verset qu'on retrouve d'ailleurs à plusieurs reprises, « Echa », qui est un interrogatif à la base qui veut dire « comment ?» On s'interroge, mais comment ? Et ils peuvent avoir une véritable valeur interrogative, c'est-à-dire je m'interroge, je me pose la question, et je pose la question à quelqu'un, mais il peut aussi exprimer une interrogation de quelqu'un qui est un peu dépité. Mais comment ça se fait? Comment est-ce possible? Comment ça a pu se produire? Donc vous voyez le côté un peu rhétorique aussi, où finalement on s'exclame, on exprime son désarroi. Et donc ce terme « Echa », c'est le nom du livre en hébreu. Alors du coup, en grec, on ne lui a pas tout à fait donné ce nom-là. En fait, au début du livre des Lamentations, il y a une petite phrase supplémentaire qui n'apparaît pas dans le texte hébreu, donc qui n'apparaît probablement pas dans votre traduction de la Bible. En général, on traduit à partir de l'hébreu, mais pas à partir du grec. Dans la version grecque ancienne, on a une petite phrase qui dit que ce sont les lamentations que Jérémie a prononcées, etc., etc. Et le mot grec utilisé, c'est trénos, hein, qui signifie complainte ou lamentation. Donc c'est de là qu'on a le terme français quand on parle de lamentation en français, c'est parce qu'en fait on dépend de la version grecque, via le latin d'ailleurs, qui a gardé cette expression-là. C'est de là aussi que vient l'attribution à Jérémie, puisque si vous regardez le livre des Lamentations en tant que tel, dans le texte hébreu, et si vous lisez les cinq chapitres qu'il y a là, vous ne verrez pas de mention de Jérémie. Donc en fait, l'attribution à Jérémie, elle correspond à une tradition qui est quand même assez ancienne, hein, puisque c'est la version grecque ancienne, donc c'est peut-être, je ne sais pas, deuxième ou premier siècle avant notre ère. On peut éventuellement voir quelques allusions peut-être à Jérémie dans le livre lui-même. Par exemple, chapitre 3, verset 53, « Ils ont réduit ma vie au silence dans la citerne ». Alors, ça fait peut-être allusion à Jérémie qui est jeté dans la citerne, Jérémie chapitre 38. Également chapitre 5, verset 7. Nos pères ont péché, mais ils ne sont plus. C'est nous qui portons le fardeau de leur faute. Donc ça, c'est peut-être une allusion à Jérémie 31, 29. Mais tout ça, en tout cas, s'il y a une référence, elle est implicite, disons. Hein, elle n'est pas vraiment explicite. Il n'y a pas de lien textuel direct, disons. Alors évidemment, le lien avec Jérémie peut aussi se faire parce que Jérémie, on nous dit qu'il a rédigé des lamentations, justement. Alors ça, c'est dans le deuxième livre des Chroniques, qu'on n'a pas encore étudié, mais bon, je peux vous donner la référence quand même. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 35, verset 25, ici. Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leurs complaintes jusqu'à aujourd'hui. On en a fait une prescription en Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. Et donc, les complaintes, ce sont ces lamentations, en fait. Hein, on peut imaginer qu'il s'agit de lamentations ici. Donc, l'idée que Jérémie a rédigé une lamentation et qu'il y a même les lamentations. Donc, voilà. Alors, sauf qu'effectivement, du coup, la fameuse lamentation à laquelle il est fait allusion dans 2 Chroniques 35, on ne la retrouve pas ici. Donc, mais on peut imaginer donc ce lien qui a fait qu'on a pu dire oui, puis le contexte historique, puisque là, on va voir le livre des Lamentations s'intéresse à la destruction de Jérusalem, donc c'est également l'époque du prophète Jérémie. Enfin, voilà, donc vous avez toute une série comme ça d'éléments qui vont permettre d'associer ce livre à Jérémie, et de fait, dans la version latine, dans la Vulgate, le livre des Lamentations est situé après le livre de Jérémie. Et c'est l'ordre qu'on a encore aujourd'hui dans un certain nombre de Bibles françaises. Là, dans la Bible que j'ai sous les yeux, là, c'est la Nouvelle Bible Seconde. Dans la NBS, le livre des Lamentations est situé immédiatement après Jérémie, et donc avant Ézéchiel, entre Jérémie et Ézéchiel. On vient rompre ce corpus des grands prophètes pour glisser ce petit livre des Lamentations. Évidemment, dans la Bible hébraïque, comme je disais, il fait partie de ces mégilotes, de ces cinq rouleaux. Il est en quatrième position. Il est lu à l'occasion du jour où on commémore la destruction du temple. Je vous avais dit que les mégilotes, les cinq mégilotes, étaient agencés de façon concentrique. Donc, 1, 2, 3, c'est A, B, C. Et ensuite, 4, 5, c'est B', A', A, B, C, B', A'. Donc, ça veut dire que le quatrième livre correspond au deuxième. Le deuxième, c'est le Cantique des Cantiques. Et on verra que le cinquième, tout à l'heure, qui est le livre d'Esther, lui, va être parallèle au premier, qui est le livre de Ruth. Mais on y viendra dans quelques minutes. Alors, intéressons-nous donc au contenu de ce livre des Lamentations. Je l'ai dit, il s'intéresse à la destruction de Jérusalem et à l'exil. C'est une collection de cinq poèmes, des poèmes extrêmement bien rédigés, des poèmes acrostiches notamment, avec même un triple acrostiche au chapitre 3. L'agencement est concentrique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, chaque chapitre correspond à un poème. Donc vous avez A, B, C, B', A'. Le premier chapitre s'intéresse à la ville de Jérusalem et à la destruction de la ville de Jérusalem. Et Jérusalem est représentée comme une femme en deuil. Donc une femme endeuillée, une femme veuve, qui était abandonnée. Ce premier chapitre est un chapitre, comme je disais, acrostique, c'est-à-dire que chaque verset commence par une lettre de l'alphabet hébreu. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc., etc. Donc ici, dès le verset premier, on nous dit qu'elle est solitaire, qu'elle est comme une veuve. Pour quelle raison est-ce qu'elle est seule? On nous dit, verset 3, « Judas est exilé ». Donc, autrement dit, la population a été déportée. Imaginez cette ville qui a été détruite, la population a été déportée, vous arrivez là, la ville, elle est seule, c'est-à-dire vide de ses habitants. Verset 5, verset 4, « Les chemins de Sion sont en deuil, car on ne vient plus aux rencontres festives ». Vous voyez, il n'y a plus personne. Toutes ses portes sont dévastées, ses prêtres gémissent, etc., etc. Donc cette ville qui est endeuillée, qui est abandonnée, qui cherche à être consolée, et pourtant personne ne la console. Verset 17, « Sion a tendu les mains et personne ne la console. Le Seigneur a dépêché contre Jacob les adversaires qui l'entourent. Jérusalem est devenue une souillure au milieu d'eux. » Verset 18b, « Mes jeunes filles et mes jeunes gens sont allés en captivité. » Verset 19, « Mes prêtres et mes anciens ont expiré dans la ville. » Donc on décrit, c'est vraiment une description de Jérusalem. Chapitre 1er, on décrit la situation de Jérusalem après la destruction par les Babyloniens. Donc effectivement, ce n'est pas très gai. Chapitre 2, on va discuter des raisons, on va aller un petit peu plus loin, hein, on va discuter des raisons de cette situation. Pourquoi est-ce que Jérusalem est dans cet état-là? Parce que c'est le châtiment de Yahvé qui s'est abattu sur elle. C'est la colère divine qui s'est abattue sur la Judée et sur Jérusalem. Ça, c'est le chapitre 2, qui est également un poème acrostiche. Chaque verset commence par une lettre de l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc. Le chapitre 2 commence par le même mot, Echa. Donc, voyez la structure répétitive. On reprend les mêmes termes. On va un peu plus loin. De nouveau, poème acrostiche, donc de 22 versets. Vous pouvez voir, à chaque fois, il y a 22 versets, puisqu'il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu. Alors, cette fois-ci, on va s'intéresser, donc, non plus simplement à décrire la situation de la ville, mais expliquer et décrire les motivations de Yahvé. Donc, dès le premier verset, le Seigneur, dans sa colère, a couvert de nuages Sion la belle. Donc, c'est la colère de Dieu. Verset 2b, il a dans sa fureur rasé les forteresses de Juda la belle. Donc, la colère, la fureur. Verset 3, il a dans sa colère ardente abattu complètement la corne d'Israël. Verset 8, Yahvé a décidé de détruire la muraille de Sion la belle. Donc c'est Yahvé qui a décidé de faire ça. On insiste bien sur le fait que c'est pas que Yahvé était absent, ou qu'il ne se sentait pas concerné, ou qu'il était impuissant face aux Babyloniens. Pas du tout, c'est lui qui a décidé de détruire Jérusalem. Ce ne sont pas finalement les Babyloniens qui ont détruit la ville, c'est Yahvé lui-même. Et on explique la raison. Verset 14. Tes prophètes ont eu pour toi des visions illusoires et insipides. Ils n'ont pas mis à nu ta faute afin de rétablir ta situation. Donc, il est question de la faute de Jérusalem, de la Judée. Le peuple était infidèle, était coupable. Ça, on l'a déjà vu. Maintenant, je ne vais pas m'étendre sur ces questions-là. On l'a fait tous les prophètes, donc je pense que ça y est, vous avez compris. On remet en cause, évidemment, les prophètes qui n'ont pas joué leur rôle. Les prophètes, dans cette situation-là, auraient dû, justement, expliciter cette situation, annoncer la faute à la ville pour lui donner l'occasion de se repentir. Les prophètes ont donné de fausses prophéties, des fausses visions. Et là encore, je peux vous renvoyer à tous les chapitres dans la littérature prophétique où on condamne les faux prophètes. Chapitre 3. Le chapitre 3 donc est le chapitre central. Je vous disais, on a une structure concentrique. Donc le chapitre 3 est le chapitre central. C'est un poème. À nouveau un poème acrostiche. Alors vous allez voir rapidement, il n'y a pas 22 versets. Il y en a combien ? Il y en a 66. Autrement dit, il y a le triple de versets. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, vous allez avoir un triple acrostiche. Quand je dis triple acrostiche, on ne va pas faire de Aleph jusqu'à Tav, puis de nouveau Aleph jusqu'à Tav, puis de nouveau. Ce n'est pas comme ça. On va faire Aleph, Aleph, Aleph pendant les trois premiers versets, puis Bet, Bet, Bet pendant les trois versets suivants, puis Gimel, Gimel, Gimel pendant les trois versets suivants. Donc à chaque fois, on fait trois versets qui chacun commencent par une lettre de l'alphabet, puis ensuite trois versets qui commencent chacun par une... C'est compliqué, hein ? Essayez de faire des poèmes comme ça, vous allez voir, c'est faisable, je veux dire, mais vous vous rendez compte que c'est quand même extrêmement sophistiqué. Donc, ce poème qui est un poème acrostiche, un triple acrostiche, est donc trois fois plus volumineux, forcément, et en plus, il est au centre. Donc c'est là qu'on va trouver la clé, évidemment, du livre. On va un peu plus loin. On a commencé par décrire la situation de Jérusalem. Ensuite, on est allé un peu plus loin en expliquant les motivations de Yahvé. Et là, on va encore un peu plus loin pour décrire la réaction de l'humain face à ce qui s'est passé. Concrètement, comment est-ce que je réagis ? Qu'est-ce que je fais par rapport à ça, moi, qui étais témoin de cette douleur ? Regardez verset 1er du chapitre 3. Je suis l'homme qui a vu l'affliction sous le bâton de sa colère. Autrement dit, moi j'ai été témoin de ça, moi j'ai vécu ça, j'ai subi ça. Qu'est-ce que j'en fais ? Comment je réagis ? Est-ce que je vais me révolter contre Yahvé ? Est-ce que je vais dire, si c'est comme ça, je veux plus de toi comme Dieu ? Tu seras plus mon Dieu, je vais choisir un autre Dieu. Qu'est-ce que je fais par rapport à cette souffrance que j'ai subie ? C'est terrible. Donc au chapitre 3, il est question de l'homme affligé. Verset 7, il m'a emmuré pour que je ne sorte pas. Il a fait peser des chaînes sur moi. Autrement dit, j'ai essayé de m'en sortir, mais pas possible. Verset 8, j'ai beau crier et appeler au secours, il ferme tout accès à ma prière. Verset 14, je suis devenu la risée de tout mon peuple. Je suis sans cesse l'objet de leurs chansons. Donc, il insiste sur la souffrance que lui-même a subie. Verset 19, souviens-toi de mon affliction et de ma vie errante. Donc, on sent cette détresse, cette affliction qui est décrite. Et le chapitre 3 lui-même, en fait, va adopter une structure concentrique. Donc, ces afflictions, on va les exposer au début et à la fin. Regardez de nouveau verset 48. « Mes yeux répandent des torrents d'eau à cause du désastre de la belle de mon peuple. » C'est là qu'on a le fameux verset 53, je vous disais, qui peut faire allusion à l'expérience de Jérémie. « Ils ont réduit ma vie au silence dans la citerne. Ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont recouvert ma tête. Je disais, je suis perdu. » Donc il décrit comme ça sa situation, sa détresse. Mais au centre de toute cette situation-là, il vient appeler au secours à Dieu et il vient donner la clé d'interprétation sur la raison de tout ceci, la raison de la destruction de Jérusalem, la raison de la souffrance que lui-même a pu endurer, de cette risée, de cette affliction, de cette persécution même. Vous allez chercher ça donc au centre du chapitre 3, donc c'est la lettre Kaf, et ce sont les versets 31 à 33. Et regardez ce que ces versets nous disent. Le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais lorsqu'il cause du chagrin, il a compassion selon sa grande fidélité. Car ce n'est pas volontiers qu'il afflige les humains et qu'il leur cause du chagrin. Ce n'est pas volontiers qu'il afflige les humains et qui leur cause du chagrin. Vous voyez la clé ici, de dire, quand on est témoin de cette destruction, de cette dévastation de la ville. Imaginez votre ville bien-aimée, imaginez cette belle ville de Strasbourg qui est, tout le monde le sait, la plus belle ville du monde. Presque, enfin en tout cas, ces jours-ci, c'est fabuleux, quoi. Imaginez cette ville complètement dévastée, complètement détruite, cet attachement, le peuple déraciné, etc. Comment rendre compte de cette souffrance? Comment lui donner un sens? Comment comprendre que Yahvé ait pu permettre ça? Et pas simplement qu'il l'ait permis, on dit c'est lui qui, dans sa colère, dans sa fureur, a fait tout ça. Et là, on vous donne l'explication. On vous dit, premièrement, ce n'est pas volontiers. Donc, Dieu n'a pas de plaisir à faire souffrir. S'il l'a fait, c'est parce que ça a été nécessaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a dit, il n'y a pas d'autre solution, il faut en passer par là. Donc ça peut nous paraître choquant, ça peut nous paraître violent, et ça l'est, c'est violent. Mais il ne le fait pas volontiers, il ne fait pas de gaieté de cœur. Il le fait probablement parce que ce châtiment est nécessaire. Et deuxièmement, ça n'est pas pour toujours. C'est-à-dire que Dieu ne va pas s'amuser en disant, voilà, vous êtes détruits, c'est fini, bon débarras, adieu, je m'en fiche de vous, maintenant je passe à autre chose. Pas du tout. Le but ultime de Dieu, lorsqu'il fait passer par la souffrance, c'est pour pouvoir restaurer. C'est pour pouvoir ensuite ramener. Et donc, c'est ce qu'on voit au verset 32. Lorsqu'il cause du chagrin, il a compassion selon sa grande fidélité. Donc, sa fidélité est bien là, sa compassion est bien là, elle est réelle. Donc là, vous avez là les versets centraux du chapitre central du livre des Lamentations. Alors, évidemment, il y a d'autres versets qui sont extrêmement importants, qui sont également... dans ce chapitre 3, j'aurais pu lire aussi les versets 22. « La fidélité du Seigneur n'est pas épuisée, sa compassion n'est pas à son terme, elle se renouvelle chaque matin. » Verset 25, « Le Seigneur est bon pour qui met en lui son espérance, pour celui qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut du Seigneur. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. » Donc vous voyez, il y a ces versets qui sont pleins d'espérance. Donc c'est intéressant de voir qu'au centre de ce livre, quand on pense au livre des Lamentations, souvent, du coup, on n'a pas trop envie de le lire, parce qu'on se dit, si c'est pour avoir des litanies de plaintes et de... Bon, voilà, là, aujourd'hui, il fait beau, le soleil brille, les oiseaux gazouillent, on se dit, j'ai autre chose à lire. Dites-vous que vous pouvez quand même aller voir ces versets-là, ils ne sont pas si mal. Alors, chapitre 4, maintenant, on fonctionne par symétrie, structure concentrique. Donc, chapitre 4, par symétrie, correspond au chapitre 2. Et là, on va revenir sur la destruction de Jérusalem. Donc là, c'est de nouveau... un chapitre pas très gai, avec des choses terribles. Verset 10, « Ces femmes compatissantes, de leurs mains, ont fait cuire leurs enfants. » C'est des versets absolument horribles. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Sauf que quand même, à la fin du chapitre 4, il faut quand même progresser. Dans toutes les structures concentriques où il y a des symétries, si c'est pour redire la même chose, ce n'est pas intéressant. Il faut quand même aller un peu plus loin. Et là, vous remarquez qu'à la fin du chapitre 4, verset 22, donc chapitre 4 est lui aussi acrostiche, j'ai oublié de vous le dire, mais vous voyez, vous avez de nouveau 22 versets, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc., etc. Le verset 22, « Ta faute est à son terme, Sion la belle, il ne t'exilera plus. » Donc vous voyez qu'on annonce la destruction... Et là, vraiment, c'en est fini. On se dit, voilà, au moment même où, dans ce chapitre-là, on parle de la destruction totale, complète de Jérusalem, on se dit, voilà, ça y est, ça, c'est vraiment fini. Eh bien, justement, c'est fini dans le sens où c'est fini parce que la destruction est complète, mais c'est fini aussi parce qu'après la destruction complète vient la restauration. Et là, du coup, on parle d'Édom. Il te fera rendre compte pour ta faute, Édom la belle, il mettra tes péchés à découvert. Autrement dit, on passe au tour suivant, c'en est fini de Jérusalem. On passe à Édom maintenant. Et donc ensuite, le cinquième chapitre revient sur cette notion de restauration et bascule lui aussi sur le rapport de l'humain à cette situation. C'est là qu'on va parler de la repentance. Alors vous avez de nouveau 22 versets. Donc on se dit, c'est de nouveau un acrostiche. Mais on a la surprise de voir que non. Ces 22 versets ne sont pas agencés comme Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc., etc. Alors il y en a quand même 22, c'est quand même le nombre de lettres de l'alphabet. Alors je ne sais pas trop pourquoi, finalement, on a quand même voulu faire une allusion à l'alphabet, mais quand même pas en commençant par des lettres de l'alphabet. C'est un petit peu mystérieux. Si vous avez une idée, dites-le-moi. Et là donc, chapitre 5, pour conclure, évidemment, allusion à la repentance, à la restauration. Souviens-toi, Seigneur, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre déshonneur, verset 1er. Verset 7, nos pères ont péché, mais ils ne sont plus, c'est nous qui portons le fardeau de leur faute. Je vous ai dit peut-être une allusion à Jérémie 31, 29. Et en même temps, l'idée c'est ça, c'est maintenant c'est fait, quoi. Nos pères ont péché, nous portons le pardon de leur faute, assez. Verset 16, la couronne est tombée de notre tête, quel malheur pour nous, nous avons péché. Donc on reconnaît, nous avons péché. Et donc du coup on dit, maintenant il faut passer à autre chose. Verset 20, pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour la longueur des jours? Autrement dit, ça y est, on paye maintenant le prix, il faut passer à autre chose. Verset 21, ramène-nous à toi Seigneur et nous reviendrons. Donc le retour, le fait de revenir, nous revenons, c'est le vocabulaire en hébreu, le vocabulaire de la repentance. Il n'y a pas de mot en hébreu pour parler de repentance, c'est pas comme en grec, tout ça. Il y a vraiment c'est l'idée de retour. En hébreu, quand on parle de transgression, en fait, on va parler de traverser. Vous êtes passé de l'autre côté, il faut revenir. Donc c'est ce vocabulaire-là qu'on trouve au chapitre 5. Donc on souhaite maintenant, pour conclure, après toute cette période de destruction, de réflexion sur les raisons. Voilà, ce livre des Lamentations réfléchit, décrit ce qui s'est passé, ce désastre, réfléchit par rapport à ce désastre, pourquoi est-ce que ça s'est produit, pourquoi est-ce que Yahvé a fait ça, comment moi je vais le vivre, comment je vais réagir par rapport à ça, qu'est-ce que je vais en conclure par rapport à Dieu, et donc cet espoir de dire, mais finalement c'est pas pour toujours, après cette période de destruction va venir la période de la restauration, et bien sûr pour ça il faut que nous confessions notre péché, que nous reconnaissions notre faute, que nous demandions pardon et que nous demandions à Dieu de nous restaurer. Et il le fera. Donc on termine également par ce message-là. Voilà pour le livre des Lamentations. Alors je continue avec le livre d'Esther. On change de registre, c'est un peu plus gai. Le livre d'Esther, cinquième et dernier livre des Mégillotes, qui est donc par symétrie parallèle au premier, qui était le livre de Ruth. Alors c'est intéressant de voir, on commence et on termine par des livres qui portent les noms de personnages féminins, qui sont bien sûr les héros, et ici il faudrait dire les héroïnes, de ces livres. Donc c'est bien d'avoir des femmes héroïnes. Le livre de Ruth est lu à la Pentecôte, le livre d'Esther est lu à l'occasion de la fête de Pourim. Alors évidemment c'est évident puisque le livre d'Esther raconte l'origine de cette fête de Pourim. Alors voilà cette héroïne à l'époque perse. On a un livre, on a un scénario ici qui est le scénario idéal pour faire un grand film hollywoodien. Ça se passe dans un palais dont vous pouvez imaginer le côté grandiose, la grandeur, les grandes salles, le faste, imaginez des décors somptueux, imaginez des costumes absolument fabuleux. On passe son temps à manger dans le livre d'Esther, c'est toujours des banquets, des banquets, des banquets, des banquets. Donc il y a ce côté qui fait rêver de princesse, de roi, de reine. Évidemment, il faut un petit peu du suspense, donc il va y avoir ces intrigues de cour où des gens vont fomenter des meurtres, etc. Tout ça sur fond d'amour, je t'aime, moi non plus, etc. Le danger, et bien sûr, à la fin, le happy end, tout se passe bien, tout se termine bien. Donc vraiment, il y a de quoi en faire un super film. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un film qui est sorti au cinéma il y a quelques années. C'est pas l'an passé où il y a deux ans, un truc comme ça. Je crois qu'il n'est pas sorti au cinéma en France, mais je crois aux États-Unis, ils en ont fait un film. Bref. Donc, c'est absolument fabuleux. C'est extraordinaire. Alors, en plus, c'est très bien rédigé. Il y a des aspects d'anticipation, donc c'est-à-dire de suspense. On ne sait pas trop. On n'est pas toujours très au clair sur les tenants, les aboutissants. On est dans un livre à caractère religieux, sinon il ne serait pas dans la Bible. Mais en même temps, Dieu n'apparaît pas dans le livre d'Esther. Vous n'avez aucune mention de Dieu. Regardez bien, d'ailleurs, il n'y a aucune mention de Dieu. En tout cas, dans la version hébraïque. En fait, concrètement, la version grecque, justement, va étoffer. Il va y avoir un certain nombre de prières à certains moments. Donc, justement, Esther va avoir la prière de la reine Esther. Là, pour le coup, effectivement, elle parle à Dieu, donc Dieu est vraiment mentionné. Mais si vous prenez le texte hébreu lui-même, aucune mention de Dieu. D'ailleurs, on s'est posé la question de dire, mais est-ce que ce livre a sa place dans la Bible? À un moment donné, on disait, mais attendez. Je vous avais fait la réflexion par rapport au Cantique des Cantiques, un livre qui vante un amour érotique en plus entre une femme et son amant, alors qu'elle-même, elle est, c'est une des épouses du roi, etc. Enfin bref, c'est pas très politiquement correct tout ça, c'est pas très catholique, c'est ce livre du Cantique des Cotiques. Et le livre d'Esther, de la même manière, on peut se dire, mais attendez, elle c'est pareil, elle est dans le harem du roi, elle se fait belle, elle le charme, enfin bon, quand même, quoi, faut pas abuser. Et en plus de ça, Dieu n'apparaît pas, il n'est pas mentionné une seule fois. En fait, ce sont des stratégies. Ce sont des stratégies rédactionnelles. On fait exprès de laisser le lecteur dans le flou, tout simplement pour donner un côté réaliste. Parce que dans la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que si on vous dit, moi je sais pas, si on vous dit, voyez, l'élection du président Hollande en France, ça correspond à l'accomplissement. En fait, c'est Dieu qui a mis ça en place parce qu'il a une stratégie de je sais pas quoi, etc. Bon, alors voilà, finalement, c'est trop facile. On connaît, on sait ce qui se passe dans les lieux célestes. Mais, je sais pas pour vous, mais la plupart du temps, quand même, dans notre vie, ben, on en est réduit à constater les événements, observer les événements. On peut peut-être croire en la providence divine, se dire, mais finalement, derrière ces événements humains, finalement, c'est Dieu qui tire les ficelles. Mais ça, c'est du registre de l'interprétation, de la perception. Et donc, finalement, le rédacteur veut nous faire partager ce flou, cette interrogation. Si Dieu est là, s'il intervient, il le fait en coulisses. Il n'est pas sur le devant de la scène. Et c'est vraiment important parce que on situe le contexte de la narration à l'époque perse. Donc on est à une époque où il n'y a pas de souveraineté en Judée. Après la destruction de Jérusalem, on l'a vu, on a parlé du livre des Lamentations de Jérémie, au 6e siècle avant notre ère, Nabucodonosor déporte la population judéenne en Babylonie. Il n'y a plus de roi à Jérusalem. À l'époque perse, on autorise, hein, les Perses autorisent les Judéens, pour ceux qui le veulent en tout cas, à retourner en Judée, rebâtir la ville et le temple. C'est ce qu'on verra avec Esdras, Néhémie la semaine prochaine. Mais il n'empêche qu'en Judée, il y a un gouverneur, il y a un satrape, si vous voulez, il y a un gouverneur perse en Judée, mais il n'y a pas de roi, il n'y a pas de souveraineté nationale. Il faudra attendre le 2e siècle avant notre ère pour qu'il y ait une restauration, et encore une pseudo-restauration du pouvoir en Judée. On sera malgré tout quand même plus ou moins sous domination hellénistique. On en parlera avec le livre de Daniel tout à l'heure. Donc on est quand même à une époque où il n'y a pas de souveraineté judéenne. Et donc on peut se poser la question, Dieu a permis, en tout cas, est-ce que c'est Dieu qui a permis, le peuple a été déporté à Babylone, comment on interprète ces événements, cette destruction de Jérusalem? Est-ce qu'on interprète ça comme justement, bah, notre Dieu est impuissant, il est faible, il se désintéresse de nous? Est-ce qu'on va croire qu'au contraire, c'était son plan? On l'a vu dans le livre des Lamentations. En fait, non. On nous explique, les notaires nous expliquent qu'en fait, c'était ce que Dieu voulait. Mais finalement, tout ça, c'est une affaire d'interprétation. Donc, on est quand même à un moment donné, on se dit, est-ce que finalement, Dieu se préoccupe de nous ou pas? Et le livre d'Esther va répondre à cette question et dire, oui, bien sûr. Dieu continue à protéger son peuple, même lorsqu'il, ce peuple n'a pas de souveraineté nationale, même lorsque les Judéens ne sont même plus en Judée, puisque là, l'histoire ne se déroule pas à Jérusalem, ne se déroule pas en Judée, elle se déroule à la cour perse. Et donc, du coup, on va dire, voilà, Dieu prend soin de ses enfants, de son peuple, même lorsque celui-ci se trouve loin de sa patrie, et même lorsque celui-ci n'a pas de souveraineté. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec le livre de Daniel également. Donc de ce point de vue-là, Esther et Daniel s'enchaînent bien. Alors, de quel danger s'agit-il ici? On va regarder un petit peu ce livre ensemble. Alors, je vais passer assez vite dessus. L'histoire, elle se lit toute seule. Comme je vous disais, c'est vraiment rédigé comme un roman. Donc ça se lit, d'ailleurs, ça se lit d'une traite, lors de la fête de Pourim. On lit à voix haute le livre, et à chaque fois qu'on lit le nom du méchant, puisque il y a toujours, quand il y a un super-héros, il lui faut un super-méchant, et le super-méchant dans ce livre, c'est Haman. Et à chaque fois qu'on prononce le mot de Haman, les enfants crient « Wouh !» comme ça. Et ils ont des crécelles, ils font des bruits de crécelles, comme ça, voilà, et ils crient « Wouh !» Donc c'est très drôle, donc on lit l'ensemble du livre d'Esther d'un coup, et c'est ponctué comme ça par des cris des gamins. Donc ça se lit vraiment très facilement. Alors, qu'est-ce qui se passe? le premier chapitre met en scène. On est à la cour perse, le roi Assuérus, donc enfin, Xerxès, fait un banquet, comme toujours, il veut faire danser sa femme. Sa femme refuse de danser, et donc du coup, il la dépose et il va choisir de prendre une autre femme. Alors on met tout le empire en branle. Il faut trouver les femmes les plus belles de tout l'empire perse. Alors à l'époque, l'empire perse c'est vraiment un empire immense puisqu'on va jusque dans la vallée de l'Indus, donc vraiment aux portes de l'Inde, au pied de l'Himalaya. Et on descend jusqu'en bas de l'Égypte, hein, jusqu'à Éléphantine, enfin jusqu'aux portes de l'Afrique noire. Donc c'est immense, vous pouvez imaginer qu'on peut aller retrouver les femmes les plus belles, comme par hasard Esther fait partie de ces femmes. Et quand elles sont sélectionnées, alors là c'est pareil, vous pourriez faire un superbe jeu de télé-réalité, c'est très à la mode ces dernières années. On choisit des candidats, on les fait vivre tous ensemble, on met 3500 caméras et 12 392 micros partout, avec des caméras infrarouges la nuit, etc., etc. Et chaque semaine, elles comparaissent devant un jury et on les élimine au fur et à mesure. On envoie des SMS pour voter, pour savoir quelles sont celles. Donc si vous voulez voter pour Esther, tapez 1, etc., etc. Et donc là, c'est ce qui se passe. Pendant 6 mois, on nous explique, chapitre 2, verset 12, que le tour de chacune des filles d'aller chez le roi arrivait au bout de 12 mois qui lui étaient assignés suivant le protocole des femmes, car la période de leurs apprêts était ainsi remplie. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des essences odoriférantes et des cosmétiques de femmes. Donc ce jeu de télé-réalité est sponsorisé par L'Oréal, qui fournit tous les produits cosmétiques, etc., etc. J'aurais pu choisir Ahava. Ahava, c'est la plus grande marque israélienne de produits de beauté. C'est des produits de la mer morte. Vous avez tout. Vous avez des crèmes de jour, des crèmes de nuit, des baumes, des après-rasages pour ces messieurs, etc., etc. Ahava, en hébreu, ça veut dire amour, en plus. Donc, voilà, si vous avez l'occasion d'aller en Israël, acheter des produits de beauté à Ahava. Bref. Donc, le tour d'Esther arrive. Et bien sûr, elle fait une grande impression sur le roi, forcément. Sinon, ce serait pas un roman, ce serait pas hollywoodien. On y dit, verset 17, « Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. » Vous voyez ? Du coup, il mit sur sa tête la couronne royale et la firène à la place de Vashti. Formidable. Donc ça, c'est le premier acte, si vous voulez. Le deuxième acte, entre en scène Mardochée, donc qui est l'oncle d'Esther, si je me souviens bien. On nous dit, ah oui, c'est ça, hein, je vous dis, c'était le... Pardon ? Oui, c'est ça, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, enfin voilà, c'est compliqué parce que... Voilà. C'était le tuteur d'Adassa, verset 7, la fille de son oncle. Voilà. Et donc, du coup, Mardochée, c'est un peu l'oncle tuteur, c'est celui qui va coacher. Vous savez, tous les super-héros ont toujours besoin d'avoir un coach... Même Batman a besoin d'avoir son majordome. Bref. Et donc, entre le méchant, et le méchant, c'est Aman. Et Aman, lui, veut recevoir les honneurs de tout le monde, forcément, c'est un méchant, donc il a besoin de pouvoir et de gloire. Seulement, voilà, Mardochée ne s'agenouille pas. On nous dit, chapitre 3, verset 2. Donc, il est vexé. Et donc, il se dit, qu'est-ce que c'est que ce judéen ? Et donc, Aman fut rempli de fureur, et verset 6, Aman chercha à détruire tous les Judéens, dans tout le royaume de Xerxès. Donc il dit, puisque c'est comme ça, on va éradiquer tous les Judéens. Bien sûr, les super méchants prennent des décisions un petit peu démesurées, mais donc c'est de la judéophobie. Alors forcément, après ça, il va décrire, regardez, c'est ça le judéen. Aman dit au roi Xerxès, il y a un peuple à part, ils sont partout infiltrés parmi tous les peuples, dans toutes les provinces de ton royaume, leur roi les distingue de tout le peuple, et ils n'agissent pas selon les rois du roi, il n'est pas dans ton intérêt de les laisser en repos. Donc, il dit, voilà, c'est judéen, il faut les détruire. Le roi dit à Aman, bah, écoute, effectivement, s'ils sont si mauvais que ça, il faut absolument les détruire. Donc, verset 13, des lettres furent envoyées par l'intermédiaire des courriers à toutes les provinces du roi. On devait détruire, tuer et faire disparaître tous les judéens, du jeune homme au vieillard, avec leurs femmes et toute leur famille. Je traduis ici systématiquement par judéen, d'abord parce que c'est le terme qui est employé en hébreu, hein, on parle bien des judéens. C'est ce que vous avez également dans les versions grecques. On parle des Judéens. Il s'agit bien d'un peuple. Hein, on veut détruire le peuple. Le terme juif en français, en principe, désigne plutôt une religion. Quand on parle, voilà, on parle des juifs. Alors que là, on parle bien du peuple de la Judée. Ce sont des Judéens. Ils viennent de Judée. Il se trouve qu'ils y sont plus, mais ils sont quand même judéens. C'est des expatriés, si vous voulez. Ils sont dispersés, c'est la diaspora. Mais on parle bien d'un peuple. Donc je préfère utiliser le terme judéen, c'est plus précis. Alors c'est là qu'on comprend pourquoi Esther est en place. Parce que jusqu'à présent, on peut dire, voilà, c'est bien joli tout ça, mais on a un roman un peu girly, avec des histoires d'amour et de charme et de séduction, etc. Vous savez, si on veut qu'un film remporte un grand succès, il faut que ça plaise aux femmes, il faut que ça plaise aux hommes aussi. Donc les hommes, ils ont besoin d'action. Donc là, c'est bien, on commence à avoir un petit peu d'action, un petit peu de... Il y a du sang, là, un petit peu, on sent que ça va. Et donc, du coup, c'est là qu'on comprend ce qui se passe. Évidemment, c'était le hasard, entre guillemets, que parmi toutes les femmes que le roi voyait défiler devant lui, celle qu'il a choisie, évidemment, c'était une judéenne. Maintenant, il ne le savait pas vraiment, mais c'est là qu'on peut justement voir, comme je disais en creux, la providence divine. Et ça, vous voyez, cette providence, elle est évoquée, chapitre 4. Il lui dit, verset 14, « Si tu ne dis rien en cette occasion, le soulagement et la libération des Judéens surgiront d'un autre côté, alors que toi et ta famille vous disparaîtrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Et il dit, voilà, finalement, si tu es parvenu à la royauté, c'est précisément pour ça. Donc cette idée de providence divine, on ne dit pas c'est Dieu qui t'a placé là. Vous voyez, le rédacteur prend soin. Moi, je dis c'est difficile pour un rédacteur quand même de ne pas dire c'est Dieu. Il est obligé de tourner les phrases autrement pour laisser un petit peu ce suspense. Et donc, du coup, elle dit « Ok, j'y vais ». Alors, sauf qu'évidemment, elle n'est pas censée aller voir le roi lui-même, si elle n'y est pas invitée. Donc, elle prend le risque de mourir. D'ailleurs, elle dit « J'irai chez le roi malgré la loi », fin du verset 16, « si je dois disparaître, je disparaîtrai ». Donc, elle est prête à mourir. Donc, vous voyez ce côté « je suis prêt à mourir pour sauver mon peuple ». Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais aller assez rapidement après. Comme par hasard, cette nuit-là, vers chapitre 6, le sommeil fuyait, le roi se fit apporter le livre du souvenir et des chroniques, etc. Et donc, du coup, vous voyez, on retrouve ce côté du roi. Là encore, hein, comme par hasard, il ne trouve pas le sommeil, donc on voit que c'est Dieu qui se glisse derrière tout ça. Et là, finalement, il se souvient que Mardoché, précédemment, avait fait du bien, et du coup, il veut honorer Mardoché. Or, c'était précisément Aman qui, lui, voulait détruire les Judéens à cause de Mardoché, mais ça, le roi ne le savait pas. Donc, en plus, il y a un côté de retournement de situation où, au final, il faut honorer. Donc, il y a un quiproquo, puisqu'il fait venir Aman en lui disant « Qu'est-ce que le roi devrait faire à un homme qu'il veut honorer ?» Aman se dit « Haha, c'est à moi que le roi pense. » Donc, Aman dit « Il faudrait que le roi fasse ceci, que le roi fasse cela, etc. etc. » Alors qu'en fait, le roi avait en tête Mardoché. Donc, vous voyez, vous avez tous les procédés du théâtre, hein, du roman. Il y a ce quiproquo. Aman pense que le roi parle de lui, alors qu'en fait, le roi parle de quelqu'un d'autre. Non seulement c'est quelqu'un d'autre, mais le pire, c'est que c'est l'ennemi juré de Aman. Donc, finalement, Aman se retrouve à devoir honorer Mardoché, alors que c'est celui dont il voulait se débarrasser. Et puis, tout ça se place. Donc, vous voyez les actes en coulisses, pendant qu'en coulisses, Esther fait ses banquets, puisque, je vous dis, toute la trame, la scène, le décor, c'est toujours le décor du palais royal avec ses banquets. Donc, on a toujours des banquets, on passe son temps à manger et à boire. Et puis, du coup, c'est là qu'elle dit, chapitre 8, verset 5, « Si cela te semble bon, dit-elle, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si la chose te convient au roi, et si je te plais... » Ouais, waouh, vous voyez, elle dit quatre choses, quoi, hein. Qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman. Et donc, tout se termine bien, on révoque les lettres et ça va sauver le peuple juif. J'ai passé quelques petites choses un peu amusantes, où même le côté, on est presque dans un vaudeville puisque le roi rentre et... chapitre 7, verset 8, je vous lis ça quand même, c'est très drôle. Le roi revenait du jardin du palais à la salle du banquet. Oui, on est toujours au banquet. Hein, au moment où Aman s'affalait sur le divan où se trouvait Esther. Le roi s'écria, et en plus, on fait violence à la reine en ma présence dans cette maison. Voilà, c'est vraiment, vous imaginez la scène de théâtre, le gens qui rentrent, pratiquement il glisse sur une peau de banane, il arrive, et l'autre arrive à ce moment-là, donc le côté quiproquo, ah bah bravo, en plus, dès que j'ai le dos tourné, enfin bref, c'est vraiment, c'est drôle, on pourrait vraiment mettre ça en scène et puis faire une belle pièce. Bref. Et donc, du coup, on arrive à non seulement donc, le peuple judéen est épargné, mais en plus de ça, au chapitre 9, il va même avoir un retournement de situation. Donc, vous voyez, là, c'est encore les procédés que vous avez au théâtre. Donc, non seulement les judéens sont épargnés, mais en plus de ça, ce sont eux qui vont pouvoir, au contraire, se venger et eux vont pouvoir tuer tous les gens, tous ceux qui voulaient leur faire du mal. Vous voyez, chapitre 9, verset 5, « Les Judéens frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée, ils les tuèrent, etc. etc. » Alors maintenant, je ne sais pas si c'est extraordinaire, parce que bon, c'est un peu genre, on rend le mal pour le mal, quoi. Aujourd'hui, je ne sais pas si on écrirait quelque chose comme ça. On dirait plutôt « Non, ils ont été épargnés, et au contraire, ils ont pardonné à leurs ennemis. Bon. » Mais à l'époque, non, pour que ça se termine vraiment bien, il faut leur mettre la pâtée. Et c'est même pire, puisque à Suse, donc dans la capitale, on nous dit « Si cela semble bon au roi, qu'il soit aussi permis aux Judéens de Suse d'agir demain comme aujourd'hui. » Autrement dit, on leur demande d'avoir encore plus de temps un deuxième jour. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième jour en rab ? Et alors oui, on peut avoir un deuxième jour en rab, puisqu'il y a tellement d'ennemis à abattre qu'on appelle tant que tous les massacrés le premier jour. Donc le massacre peut continuer le deuxième jour. Ça, c'est perçu positivement aujourd'hui. C'est pas comme ça qu'on verra les choses. Donc forcément, on va célébrer cette victoire absolue. Et c'est évidemment la fête de Pourim. Regardez verset 26, chapitre 9, verset 26. « C'est pourquoi on a appelé ces jours-là Pourim, d'après le nom du Pour. » Et le pour, c'est le sort qu'on avait tiré, le sort. Je relis pour ça le verset 24. Il avait tiré le pour, c'est-à-dire le sort, pour les frapper de panique et les faire disparaître. On avait tiré, c'était Aman qui avait tiré au sort pour trouver le jour où on devait exterminer les Judéens. Et en fait, ce jour, c'est le jour où, non pas où les Judéens ont exterminé, mais au contraire, où les Judéens ont pu tirer leur vengeance. Donc ce jour reste, un jour, c'est la fête de Pourim qui est célébrée encore aujourd'hui. Alors, il se trouve que comme la fête de Pourim, ça tombe en hiver, plus ou moins en général, du côté de février, etc., c'est plus ou moins l'époque du carnaval. Et donc, du coup, ça s'est transformé en fête de carnaval. Donc, aujourd'hui, les enfants se déguisent. Donc, les petites filles se déguisent en Esther. Alors, en fait, elles ont des vêtements de princesse. Hein, c'est les mêmes vêtements de princesse que trouvent dans tous les magasins. Mardoché, c'est le héros aussi. Donc, les gamins, ils ont des petits déguisements de Spider-Man et compagnie. Et ceux qui veulent se déguiser en Aman, ils ont des déguisements de squelette ou de Dark Vador, etc. Donc on va vous allez dans les mêmes boutiques acheter les mêmes costumes que pour le. Mais sauf que là, du coup, on donne le parallèle avec le livre d'Esther. Donc voilà pour le livre d'Esther. La morale du livre d'Esther, c'est Dieu même caché, même en coulisses, veille sur les siens, il prend soin de son peuple, tant que son peuple, justement, refuse, Mardoché refuse de se compromettre et de se prosterner, tant qu'il est fidèle jusqu'à la mort, Esther est prête à mourir en disant, voilà, si je meurs, je meurs, etc., etc. Donc il y a cette destinée du peuple judéen, même en dehors de ses frontières, et même lorsque les événements ne semblent pas forcément marquer la trace, disons, de l'intervention divine, il faut, en dépit des autres, des apparences, ne jamais désespérer, ne jamais croire que Dieu nous a abandonnés, et toujours penser qu'en fait, il prend soin de nous, et même que nous avons une destinée pour sauver notre peuple. Voilà. Alors, sur ces bonnes paroles, j'enchaîne avec le livre de Daniel. Je vois que l'heure tourne et que l'horloge s'est arrêtée. Donc, moi, depuis tout à l'heure, je me dis, c'est bien, j'ai encore 40 minutes, mais en fait, non. Je n'ai plus que 10 minutes pour vous parler du livre de Daniel. Alors, avec le livre de Daniel, on a fini les Mégillotes. On passe à un autre genre. Et en même temps, ça s'enchaîne très bien avec Esther, puisqu'on se place également à une époque, on est également en contexte de diaspora. Les Judéens, en dehors de la Judée, doivent-ils rester judéens ? C'est la question qu'on se pose. Finalement, on est très loin de la Judée. Est-ce qu'il faut maintenir les traditions judéennes, la religion judéenne, ou est-ce qu'on peut adopter la religion sur place ? Est-ce qu'on peut oublier ses origines, ses racines, et à Rome faire comme les Romains ? Eh bien, on a eu l'exemple d'Esther, qui a été appelée aux plus hautes fonctions de l'Empire pour pouvoir protéger son peuple. On va retrouver la même chose avec Daniel, qui va lui aussi se retrouver aux plus hautes fonctions comme récompense de sa fidélité. Vous aviez déjà ça aussi avec Joseph dans la Genèse, d'ailleurs, où Joseph se retrouve également à la tête de l'Empire pour pouvoir pour pouvoir sauver son peuple. Alors le livre de Daniel comporte deux parties. La première partie est en araméen, la deuxième partie est en hébreu. Donc ça, c'est unique dans la Bible hébraïque. C'est le seul livre qui va être bilingue, si vous voulez. Première partie en araméen, deuxième partie en hébreu. Et en plus, les deux parties correspondent à des genres littéraires assez différents. La première partie est une section narrative. Les chapitres 1 à 6, 6 ou 7. Le chapitre 7 est un chapitre charnière. Où on va avoir une section narrative, où en fait, on va alterner des petits épisodes, des histoires, avec des interprétations de rêves. Et dans la deuxième section, qui est en hébreu, on abandonne le genre narratif et on bascule dans une section purement apocalyptique. C'est une apocalypse. Donc Daniel va recevoir des visions et des révélations. Et là, il ne va pas interpréter les rêves d'autres personnes, il va lui-même recevoir des visions et des révélations. Alors pour le livre de Daniel, je vous renvoie à un petit chapitre que j'ai écrit dans un livre sur le jeune héros. Le livre s'appelle Le jeune héros. Et le livre j'ai écrit un chapitre sur Daniel qui s'appelle Loin des yeux, non du cœur. L'héroïsme selon Daniel. Donc je vous renvoie à ce chapitre-là, je vous en dirai un peu plus que les 10 minutes dont je dispose pour parler du livre de Daniel. Alors, la première section, donc chapitre 1 à 6 ou 7, donc cette section narrative, en fait, le premier chapitre est quand même en hébreu. Je vous dis, la première section est en araméen. En fait, elle a été précédée d'un chapitre en hébreu qui a servi d'introduction. La section araméenne elle-même, ce sont les chapitres 2 à 7 qui sont en araméen, et qui ont une structure concentrique. On alterne récit narratif donc, et interprétation des rêves. Donc concrètement, comment ça marche? Le chapitre 2... Le chapitre 2 parle... C'est une vision qui parle de royaume. Au chapitre 2 et au chapitre 7, vous allez voir 4 royaumes, chapitre 2 et 7. Donc ça, c'est A et A'. Ensuite, les chapitres 3 et 6... qui vont se répondre, vont être des récits de bravoure. Et puis, les chapitres 4 et 5 vont être des récits de jugement de roi orgueilleux. Donc, ça vous fait A, B, C, C', B', A'. Structure en chiasme, donc structure symétrique. Donc, je rappelle, chapitre 2 sera question de 4 royaumes, chapitre 3 est un récit de bravoure, on refuse de se prosterner devant la statue, chapitre 4, récit de jugement d'un roi orgueilleux, enfin c'est pas un récit, c'est une image, disons, là en l'occurrence chapitre 4, un rêve, chapitre 5, de nouveau, il est question du jugement d'un roi orgueilleux, là sera l'inscription sur le mur, chapitre 6, on refuse de cesser de prier, c'est Daniel qui refuse de cesser de prier. Et puis chapitre 7, donc 4 royaumes. Donc vous voyez, cette section araméenne, les chapitres 2 à 7, forme une unité littéraire. C'est le noyau vraiment du livre de Daniel, je pense. Cette section a été précédée d'un... On a collé devant un chapitre en hébreu, qui sert d'introduction. Et le chapitre 7 lui-même marque une transition, puisque au chapitre 7... Daniel va avoir une vision, c'est lui-même qui va faire un rêve, donc il ne va pas interpréter les rêves d'autrui, alors que d'habitude, on vient le chercher pour dire « je ne comprends pas, est-ce que tu peux m'expliquer ?» Et là, c'est lui-même, et du coup, le chapitre 7 va servir de transition pour la deuxième section, c'est-à-dire où Daniel lui-même est le récipiendaire, si vous voulez, le réceptacle des révélations divines. Et ça va être les chapitres 8 à 12, qui, eux, sont clairement en hébreu. Donc on voit, et en plus, dans un hébreu très tardif, avec même des mots grecs, etc., etc. Donc on voit que c'est écrit à l'époque hellénistique. Alors, je ne vais pas rentrer en détail dans chacun des épisodes. Vous voyez, tous ces épisodes de bravoure, l'idée, c'est toujours de dire, nous qui sommes en diaspora, comment devons-nous nous comporter? Est-ce qu'on doit abandonner notre identité? Oublier que nous sommes judéens, on change de nom. Hein. Vous savez, Daniel, Anania, Michaël et Azaria, nous dit-on, chapitre 1er, verset 6, on change leur nom. Hein. Daniel devient Belshazzar, Anania devient Shadrach, Michaël, Meshach et Azaria, Abednego. Donc, ils changent de nom. Ils changent de nom, ils n'ont plus de nom hébreu. Voilà, ils apprennent la langue du pays. Finalement, on pourrait oublier leurs origines. Non, le livre de Daniel est là pour nous rappeler qu'absolument pas, en aucun cas, il ne faut oublier. Mais alors, à ce moment-là, est-ce qu'il faut se rebeller? Non plus. C'est une sorte de résistance passive. C'est un héroïsme, non plus l'héroïsme de David contre Goliath qui vient de mettre la pâtée aux ennemis. Non, pas du tout. Au contraire, une sorte de pacifisme. On est pacifique. Et en même temps, on ne fait pas de compromis non plus. Hein. Au chapitre 1, on refuse de manger la nourriture du roi. Au chapitre 3, on refuse de se prosterner. Au chapitre 5, on refuse de prier, etc., etc. Donc à chaque fois, on refuse de compromettre, et à chaque fois, Dieu délivre, hein, l'histoire de la fosse au lion, etc., etc. Et donc je disais, c'est cette intégrité de ce jeune Daniel qui va lui donner d'être choisi par Dieu pour pouvoir interpréter les rêves. Et ces rêves, évidemment, évoquent toujours les conditions politiques. Chapitre 2 et chapitre 7, il est question de quatre royaumes. Au chapitre 2, c'est une statue hybride avec quatre matériaux dedans. Et en fait, ces quatre matériaux différents, vous voyez, on nous dit, chapitre 2, verset 32, « La tête est faite d'or pur, la poitrine et les bras sont faits d'argent, le ventre et les cuisses sont de bronze, les jambes de fer, les pieds de fer et d'argile. » Et donc, ces quatre royaumes, en fait, on nous dit, eh bien, finalement, c'est toi qui es la tête d'or, donc c'est l'époque babylonienne. Ensuite, en deuxième position, ce sera les Mèdes et les Perses, etc., etc. Enfin, je ne me souviens plus. Non, attendez. Qu'est-ce qu'on nous dit Oui, donc je disais, les royaumes successifs. Ça peut se discuter. Hein. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que globalement, on peut dire qu'il y a donc la Babylonie, les Mèdes et les Perses, ensuite Alexandre le Grand pour le troisième royaume, et quatrièmement, le quatrième royaume, c'est en fait l'époque hellénistique, c'est le partage avec les Séleucides, la Gile, etc., etc. Et donc le royaume est divisé, verset 41, etc., etc. Bon. Ensuite, donc ça, vous avez de nouveau au chapitre 7, sauf que chapitre 7, ce sont des visions de quatre royaumes qui sont représentés par quatre bêtes. Donc à chaque fois, vous avez des représentations imagées qui représentent toujours les quatre mêmes royaumes, évidemment. Ensuite, la dernière section, chapitre... Ah oui, il faut que je me dépêche. Les derniers chapitres donc, qui sont en hébreu, là, on rentre dans le genre apocalyptique, hein, l'apocalypse. Apocalypsis, ça veut dire révélation en grec. Donc quand on parle d'apocalypse, on parle de livres dans lesquels il y a des révélations. Quelqu'un qui reçoit des révélations divines qui lui sont apportées, non pas parce qu'il comprend plein de choses tout seul, de façon empirique, mais parce qu'il a la visite d'un ange, par exemple. En l'occurrence, c'est Gabriel qui va venir au chapitre 8, chapitre 9... Il y aura trois visions ici, donc trois grandes révélations. Première révélation, chapitre 8. Deuxième révélation, chapitre 9. Troisième révélation, chapitre 10 à 12. Donc au chapitre 8, il a une révélation. On sait que c'est Gabriel, parce qu'il est mentionné au verset 16. Gabriel fait comprendre la vision à celui-ci. Alors, on dit, c'est qui Gabriel? C'est un archange. Vous le retrouvez dans le livre d'Enoch. Un des meilleurs parallèles du livre de Daniel, c'est évidemment le livre d'Enoch, qui est également rédigé en araméen, plus ou moins à la même époque. Et c'est là qu'on va retrouver également Gabriel, Michael, enfin le nom des archanges. Alors là, cette fois-ci, on a deux royaumes, le bélier et le bouc, dans cette vision. Et là encore, ces béliers et ces boucs sont représentants de deux royaumes. Et évidemment, les deux royaumes, vous allez voir ici, le bouc devient très grand, mais lorsqu'il fut puissant, la grande corne se brisa, quatre cornes imposantes s'élevèrent à sa place. C'est évidemment la division du royaume d'Alexandre le Grand parmi ses compagnons après la mort brutale d'Alexandre le Grand. Au chapitre 9, de nouveau, une autre vision. Alors cette fois-ci, il est question de 70 semaines au chapitre 9. De nouveau, il est question de Gabriel. C'est encore chapitre 9, verset 21. Je parlais encore en prière quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment, etc., etc. Et il explique les 70 semaines, verset 25. Il s'agit de rétablir Jérusalem, donc c'est l'édit de Cyrus. Il est question du grand prêtre, un chef ayant reçu l'onction. Ensuite, cet homme est retranché, verset 26. C'est Onias III, qui, vers 170 avant notre ère, est déposé par Antiochus IV, qui va mettre à sa place Jason. son frère en plus, enfin, oui, imaginez les intrigues politiques, qui va finir par le faire assassiner parce qu'Ognias III ne se laissera pas démettre tout simplement. Ça donnera, il va détruire la ville verset 26, donc c'est la crise maccabéenne, la révolte des Maccabées. Et puis enfin, les chapitres 10 à 12, c'est la grande vision finale, c'est énorme, trois chapitres. Là, on a la visite d'un autre archange qui est Gabriel à la fin du chapitre 10, on le mentionne verset 13. Et là, alors, on explique de nouveau, alors là, on rentre dans les détails de guerre, évidemment, il fait allusion aux Séleucides, par exemple, chapitre 11, verset 6. Bien sûr, il est question du royaume de Grèce, verset 2. Il sera divisé aux 80, verset 4, ce sont les quatre royaumes. Le roi du sud, verset 5, c'est les Lagides. Au verset 6, c'est le roi du nord, ce sont les Séleucides, etc., etc. Donc, pour comprendre toute cette grande section, évidemment, il faut avoir sous la main son livre d'histoire des royaumes hellénistiques, notamment l'Orient hellénistique, le Levant hellénistique. Je vous renvoie au manuel de Sartre, Maurice Sartre, qui a écrit tous ces manuels, qui est grand spécialiste de l'époque hellénistique. Et puis, bien sûr, tout ça, c'est la visée eschatologique, c'est la fin du monde. À la fin des temps, bien sûr, Dieu va intervenir, il va rétablir, il va restaurer. Les méchants seront punis, les justes seront sauvés. Chapitre 12, évidemment, ton peuple réchappera, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Donc, il fait allusion à ce sort de livre de vie, évidemment, qu'on va retrouver dans le livre de l'Apocalypse de Jean. Une multitude qui dort au pays de la poussière se réveillera, les uns pour la vie éternelle, les autres pour le déshonneur. Donc il est fait allusion à la résurrection à la fin des temps, résurrection tantôt pour le châtiment, tantôt pour la vie éternelle, etc. Et puis bien sûr, quant à toi Daniel, tiens secret de ces paroles et scelle le livre. Donc ce côté secret, ce côté apocryphe, caché, évidemment cette connaissance apocalyptique qui est réservée uniquement à ceux qui sont choisis et qui peuvent comprendre. Voilà. Et je m'arrête là. Puisqu'il est l'heure, je m'arrête là pour aujourd'hui pour le livre de Daniel. Je vous remercie de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour la fin de ce cours.